Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Je suis Julien et en compagnie de Marco et Marc-André. Comment ça va les boys?
Yes sir, je suis content d'être là.
Moi, super bien.
Ouais.
Hey, là, quand même, on a un point en commun les trois. C'est rare que ça arrive, mais nos trois équipes ont gagné la fin de semaine passée. Oui. Donc, on est super heureux. Puis, Lozé n'est pas là en début de podcast. Je pense qu'il rumine un peu, il est en train de pleurer parce que Mahomes et Lamar Jackson, ils ont perdu leur match.
Oui, tu fais bien dire parce que c'est pas ses équipes, c'est ses joueurs. C'est pas ses équipes.
C'est drôle parce que la semaine passée, dans les prédictions, j'ai dit que les 6 défaites de Lamar et les 6 défaites de Keith Smith, c'était toutes ses défaites. Puis là, il y en a 2 de plus.
D'ailleurs, c'est une semaine assez aride là, pour beaucoup d'entre nous. Là, on était unanime sur beaucoup. Ah, ouais. On s'est laissé teinter par l'affiche. Mais c'est ça qui est dur en fin de saison. Des fois, on a envie de prendre ton équipe. Là, tu vois l'affiche, tu dis hey, « je ne peux pas croire qu'ils vont l'échapper ». Il y en a beaucoup qui ont été échappés, donc il y a beaucoup de upset. Puis avant qu'on s'écarte, là, merci à Dualité pour la musique d'intro. Puis Marco, tu auras l'oiseau bientôt de nous dire un peu qu'est-ce que tu penses de tes Chargers qui ont battu les Eagles sur des jeux d'époque.
Yes, sir,
donc, deux fumbles pour Hurts. Mais avant, Marc-André, ça a l'air que tu as énormément de shout-outs. Une autre semaine record pour les réseaux sociaux. Fait que
ouais, tu peux aller, vas-y. Vraiment, je trouve ça vraiment cool pour vrai. Les réseaux sociaux, ça pogne vraiment majoritairement sur TikTok. Je ne sais pas pourquoi TikTok, ça lève plus qu'Instagram, mais vraiment, on a vraiment du gros succès sur TikTok. Fait que je veux vraiment remercier tout le monde parce que c'est vraiment le fun de la communauté qu'on est en train de se bâtir. Ça se peut qu'un jour, je sois plus capable de faire des shout-outs à tout le monde parce que là, on commence à avoir vraiment beaucoup. Juste cette semaine, on a 40 nouveaux abonnés sur TikTok. Là. Fait que comme je vais faire un shout-out, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on va en avoir trop par semaine, je ne passerai pas 10 minutes à faire des shout-outs à chaque podcast.
Il y aura une troisième émission, puis c'est juste shout-out.
Shout-out à...
Juste toi qui drop les gens.
Ouais, c'est ça, les gens.
Que tu feras seul, tu sais.
Fait que sur Instagram, on a un nouvel abonné cette semaine, c'est Nipso. Fait qu'un gros merci à toi. Sinon, sur TikTok, ça y va comme ça. Donc, Vic, Matt Dulac, Nathaniel Malenfant, De Chuck Norris, MKR, Zach Lapierre, Tiplouk68, Trombe69.5, Plouf, Mathieu Juteau, Francis376, Tips de Man, Mathis Tourigny, Alex Leck, Alex Blanchette, Golf Boucher, Papou, Ed Tremblay1, Ali Epoxy Chemtech, d'après moi, c'est un gars qui fait de l'époxy. Si vous avez besoin d'un contact, appelez-le, il a l'air sympathique. Rob, Clown, Mob, Charles Meunier, Karim Benaila, Enrique, c'est peut-être Enrique Iglesias qui nous suit, les boys. Mats, Fred.
Il y en a d'autres, hein, des.
Lads, Betts, Tati Baifu, Charles Gaudreau, Julian, CM, Loïc Franqueur, Le Coq de l'Est, beau nom, Chris, Luc-Alexandre Rondéa, Motz1233, Samuel Chiasson, Le Guys, D33R, ce sont nos nouveaux abonnés cette semaine sur TikTok. Je shout-out aussi Jean-Michel qui est venu commenter mon vidéo de dimanche de betting parce que dimanche, mon vidéo de betting, je suis comme 11 en 14 de bonnes prédictions. Fait qu'il est venu sur le vidéo nous lancer un petit shout-out. Et aussi, shout-out à Nathan qui a beaucoup aimé mon petit bye-bye qui est ici dans mon vidéo de lundi. Fait que il a beaucoup aimé mon petit bye-bye qui est ici. Fait que shout-out à vous tous. Merci de nous suivre. Merci d'interagir. C'est vraiment cool. Puis en espérant que notre communauté continue de grandir.
Marc-André, son super baveux, là.
Le pire, c'est que c'est pas encore fini pour Kissy, puis je suis assommé. Il y a encore un petit 5%
ouais,
de chance.
Ouais, non, mais là, genre, c'est... oublie ça.
Il faut que ben les As soient arrivés.
Oh, ouais, là, c'est
comme les Dolphins qui ont if win 1%, if lose 1%.
T'sais. Ouais, c'est ça, comme.
Rendu là, c'est comme.
Rendu là, tu peux marquer 0. Tu peux marquer 0.
Ouais.
C'est ça. Plus petit que 1.
Ok,
ils ont arrondi.
C'est ça.
C'est pas fameux, mais ils sont encore en vie, ils se maintiennent. Ça se peut que ça change dès cette semaine.
Ils se maintiennent, oui, c'est ça. Se
même s'ils gagnent, ça se peut qu'à cause que quelqu'un d'autre gagne, ça se peut qu'ils soient éliminés. Là. Fait que, tu sais, quand on dit que t'as pas ton destin de tes mains, ils n'ont pas le destin de leurs mains. Là, dans le fond, petit segment à rafale cette semaine, pas tout de suite, Marc-André. Juste dire aussi, on est rendu à la semaine où on parle de Power Rankings. Ça a beaucoup changé par rapport à la deux semaines. Des fois, d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Là, deux semaines, ça peut changer. Puis après ça, à la fin, on termine le podcast avec nos prédictions. Retour sur nos prédictions. Je vous le dis, c'est pas fameux. Là, ma première fiche perdante là, depuis le début de la saison. Mais il fallait que ça arrive. Hein, quand ça va trop bien, des fois, il faut que ça redescende. Donc, un petit retour là, à la réalité.
Yes.
Marco, malgré tout, une bonne semaine.
Ben, une bonne semaine. C'est le seul en haut de 500. Là. C'est pas extraordinaire, mais t'es le seul en haut de 500 quand même.
Il était longtemps numéro 1, il s'est fait rattraper. Ouais. Là, je pense que son petit égo était touché, il l'a pris personnel. Puis là, il est arrivé que ça met une des bonnes semaines. Donc, voilà.
Ça n'a pas super bien commencé avec les Cowboys, mais bon, c'est pas si pire, c'est pas si pire.
Quand même, tout un match.
Avant mon segment, Raphaël, je veux aussi faire un petit shout-out à Junior et à Son, avec qui je travaille, qui nous sont de fidèles auditeurs. Puis on a eu une bonne discussion cette semaine sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'augmenter la visibilité du podcast sur les réseaux sociaux. Et je vais le dire ici, je vais le mettre sur les réseaux sociaux aussi demain. Mais à partir de demain, à chaque match prime time, en plus de mes bets, je vais rajouter un petit sondage pour sonder notre communauté à savoir qui va gagner le match. Fait que par exemple, demain, match Falcon-Tampa Bay, je vais faire mon assistant bet du jour, puis je vais rajouter un petit sondage qui vous pensez qui va gagner entre les deux. Puis quand on va faire nos retours de pic, la semaine prochaine, je vais pouvoir rajouter le pic de notre communauté pour voir notre communauté si est meilleure que nous autres. Fait qu'un petit brainstorm au travail qui va ramener un petit
props
intéressant sur les réseaux sociaux.
Mais peut-être que le monde externe à nous pense le contraire aussi. Là, fait que...
Ouais.
Non, c'est, je suis curieux de voir les résultats. Qu'est-ce que les gens
D'ailleurs, font, je vous réserve une petite surprise pour plus tard dans le podcast parlant de ça.
Marc-André Mystérieux, on adore ça.
Voilà.
Mais dans le fond, vas-y que le segment en rafale, l'intro a assez duré. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de la NFL durant la dernière semaine?
Yes, donnez-moi deux petites secondes. Je vous partage les résultats de la semaine. Et on y va tout de suite avec le match du jeudi soir. Qui a vu les Lions, qui étaient dans une séquence négative, marquer 44 points, l'attaque qui a vraiment sorti les gris. Je pense qu'ils ont senti la soupe chaude, que leur saison était sur la ligne. La porte 44-30 sur les Cowboys. Les Lions se maintiennent en vie. Les Cowboys, à ce moment-là, pensaient peut-être être morts, mais avec la défaite des Eagles, c'est toujours réalistement possible que les Cowboys passent aux éliminatoires. Il faut qu'ils gagnent deux matchs de plus que les Eagles d'ici la fin de l'année.
Incroyable.
Ouais, moi, sérieusement, là, j'avais prédit, mettons, 31-28 Cowboys, mais 44 points, là, je l'avais pas vu venir, celle-là.
Cowboys, après avoir gagné. Puis, tu sais, Marco, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais c'est qu'on a vu en fin de semaine beaucoup d'équipes qui étaient haut classées, qui n'ont pas des bonnes fiches, qui ont vraiment show-up, dont les Bills plus tard. Donc, tu sais, les Lions, ils ont sorti la chose, puis ils ont sorti un de leurs meilleurs matchs. Puis, ils n'ont jamais vraiment été dans le coup, les Cowboys. Les Lions ont éclaté les Cowboys. C'était un super beau match prime time. Ozzy, viens de se joindre à nous. T'as manqué les shout-outs qui ont duré...
T'as juste manqué les shout-outs. Fait que t'es correct.
Dans le fond, maintenant, t'arrives là, en plein pour le retour de match.
Shout-out à tous les shout-outers.
Yes, sir. Puis, tu sais, je pense que ce qui a aussi influencé, c'est quand on a fait le podcast la semaine passée, on était tous convaincus qu'Amon-Ra St. Brown jouait pas. Puis Amon-Ra St. Brown a joué dans ce match-là, puis il y a eu un impact là, dans le match. C'est clair, net et précis. Fait que, tu sais, si j'avais su qu'Amon-Ra St. Brown avait joué, peut-être que mon bet aurait été de l'autre.
Il y a quelqu'un ici qui avait pris des toits.
Oui, ouais, t'as raison.
Il sait qu'Amon-Ra St. Brown, c'est un dog. Puis ce gars-là, c'est le plus gars le plus tough dans toute la NFL. C'est le gars le plus tough de la ligue.
Marco l'avait callé. Il avait dit Gibbs, c'est un dieu, mais je pense que c'est pas suffisant. Puis il y a eu tout un match Gibbs dans ce match-là.
Ouais.
Ça a été suffisant finalement. Il y a vraiment le.
Ça a été suffisant, mais Amon-Ra, vraiment. J'ai dit qu'Amon-Ra, il y aurait besoin d'Amon-Ra pour faire des points, puis faire avancer le ballon, puis Amon-Ra a joué, puis ça a donné.
Il a fait des gros catchs.
Ouais.
Il n'a pas été touché, mais il y a eu, je pense, 9 réceptions pour genre 80 verges, 86, quelque chose comme ça. Donc un très beau match bien impliqué.
Ben,
là,
Jameson aussi a fini par faire son. Ils ont presque splitté, je ne me rappelle pas là, vraiment les stats, là, mais il me semble qu'il y a eu des bons catchs.
Jameson, il y a eu des bons matchs.
Match du dimanche maintenant à 13h, le premier match Seahawks-Falcons, les Falcons qui étaient tout simplement pas de match sur les Seahawks. Ça a quand même commencé un peu serré, là. C'était comme serré en début de match, puis après ça les Seahawks ont pris leur envol, puis ils ont juste éclaté les Falcons. Les Falcons ont encore une saison franchement décevante. Les Seahawks s'accrochent, puis ils ont encore une chance de finir premier, non seulement dans leur division, mais premier dans la NFC au complet. Là. Faut pas les écarter, les Seahawks.
Ça va être le fun pour vrai. Je pense que les Seahawks et les Rams vont se ramasser sûrement en finale d'association. Ça va être un bon match. Là.
Hey, attends une minute. Faut pas oublier Seahawks, Rams. Faut pas oublier les Niners dans cette
situation-là,
les gars.
100%. Je suis d'accord.
Ok, oui.
Dernier match de la saison, Seahawks-Niners. Si Niners bat les Seahawks, ils ont le tiebreaker. Ils ont splitté contre les Rams. Les Niners sont pas sortis de cette division-là encore.
J'ai hâte de voir ce game-là parce que je pense que ça va donner un... C'était, comment je pourrais dire? voyons, je cherche le mot, là, mais ça va donner un...
un prélude.
Ouais, ben c'est ça, ça va donner le cap, là.
Puis dans mon power ranking, j'ai failli, je l'ai pas fait, mais j'ai tellement hésité longtemps à aller juste les mettre 1, 2, 3, ces trois équipes-là, dans mon power ranking de la NFC.
Ça aurait
pu. J'étais à ça de dire juste comme fuck it, ouais. Rams, Seahawks, 49ers, 1, 2, 3. Genre le vainqueur de cette division-là va se rendre au Super Bowl. C'est fort. Mm. Ça va prendre quelque chose de gros pour tasser ces équipes-là
parce que tu regardes,
en éliminatoire.
Tu regardes left and right, t'as ceux qui analysent un peu le foot. Puis, tu sais, c'est sûr, ça parle de la lutte entre les deux. Le gros match qu'il y a eu, que les Rams ont gagné par un ou par deux, là, je ne me rappelle pas, en dedans de trois points. Mais il n'y avait juste personne qui parle des 49ers parce qu'ils ont juste eu 1000 blessés. Mais si Niners win out, ils vont finir premier dans le NFC.
C'est fou.
Incroyable.
Mais il n'y a juste personne qui parle des Niners parce qu'ils ont quatre défaites, ils sont une en arrière des autres.
Moi, le premier, je parle pas.
Mais incroyable au équipe. Bout de la ligne, ils sont vraiment pas
hors
de
ça. Là.
Ils sont
100%.
Ouais.
Il y a beaucoup de memes sur les joueurs en chaise roulante. Là. vraiment, l'intelligence artificielle a fait des vidéos, c'est des bijoux, honnêtement. Ça a valu la peine, mais malgré tout, ils gagnent. Ils trouvent une façon de gagner. Ils sont bien coachés, ils adhèrent au projet. Puis CMC, année incroyable qu'ils sont en train d'avoir. Fait que c'est vraiment le super de son produit, on n'en fait pas assez, mais il a gagné Offensive Player of the Year. Puis,
ce qui arrive avec les 49ers, oui, en fin de saison, ils sont bons, mais ils ont été en baisse cette semaine, on les a pas vus. Ils ont joué contre Cleveland, qui va nulle part. Ils ont joué aussi contre Caroline. Ils ont bien joué contre Caroline, mais genre, honnêtement, tu sais, c'est comme des équipes un peu. J'ai hâte de les voir contre une vraiment bonne équipe. Là, contre Seattle, ça va être la fin.
Oh, oui, absolument. Je dis pas que c'est fait, mais je fais juste dire que personne n'en parle. Tandis qu'ils sont vraiment juste là.
Mais c'est le fun parce que cette semaine, San Francisco arrive contre une équipe Red Hot qui vient de mettre beaucoup de points sur le tableau. Ils font Tennessee cette semaine.
Mais c'est ça, on n'aura pas encore un barème clair de leur équipe. Ils ont un cédule assez facile dans les 4-5 dernières semaines.
Marc-Henri, ils sont upset que les Titans l'emportent. C'était juste deux semaines trop tôt.
Ouais, c'est ça, j'étais juste trop tôt.
ça fait mal aux Survivors, ça, là.
Ah, c'est clair.
Hey,
on parle
pas de Survivor à soir.
Non, c'est ça.
Too soon.
Yes, sir. Steelers-Ravens, c'était un match, j'en parlais dans mon vidéo de bet de dimanche, la cote avait aucun sens. Les Ravens plus 6, ça faisait... les Ravens moins 6, je m'excuse, ça faisait aucun sens dans un match de rivaux comme ça. La cote, fallait absolument prendre les Steelers plus 6. Je savais pas si les Steelers allaient gagner, mais la cote faisait pas de sens. Les Steelers qui l'emportent 27 à 22 dans un match chaudement disputé où on s'est pogné pendant à peu près 3000 messages sur notre conversation Facebook à savoir si likely c'était un TD ou pas un TD.
Most likely it was one.
Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, pour relater, là, pour être allé voir vraiment les règlements, ce qu'on comprend, c'est que pour avoir un TD, ça prend trois mouvements. Souvent, c'est deux pas plus compléter l'attraper ou un troisième pas, un geste de football. Puis ce qui arrive, c'est que Likely, il étend pas nécessairement les bras, mais tu sais...
Marc, ça, c'est le règlement pour qu'il y ait un completed catch.
Ouais.
Quand les gars, ils toe-tapent, il n'y a pas de geste de football après.
Oui,
mais si tu veux l'attraper, il peut pas échapper le ballon.
Le ballon peut pas bouger, puis il doit rester au contact en tombant.
Ouais, mais en tombant, il faut que le ballon touche à terre pour...
Non, il faut que si le ballon bouge,
on n'a pas les droits, fait que je peux pas la merde.
Au deuxième quart, il y a un catch, justement, toe-tap, mais en tombant, le ballon bouge, puis les Ravens ont donné le red flag, puis ils ont eu le challenge, puis ils ont eu raison, ça n'a pas été un completed catch, parce que même si le ballon n'a pas touché au sol, le ballon a bougé quand il est tombé, fait qu'il n'y avait pas possession de la balle. Fait, il faut qu'il survive au contact.
C'est pas un touchdown. C'est ça, l'affaire.
Non, mais c'est un catch doit être un catch, que ce soit sur les lignes de côté ou que ce soit dans la zone de but. C'était pas un completed catch. Parce qu'il y a les trois choses, Marc-André, il y a juste une nuance. Ça prend un geste de football ou du temps. Non, mais il y a une nuance sur la troisième chose. Un geste de football ou il y a... Je me suis pas trompé, Marc. Il y a deux options à la troisième information.
Ça me rappelle geste
de football.
Combien qui
l'osé, c'est un point pertinent. Là, c'est vrai, combien? Trois. Là, il y a des gags visuels, vous irez voir YouTube. Mais c'est que ça prend soit le geste de football ou du temps pour faire le geste de football. C'est là que moi, j'ai un problème. C'est que clairement, Likely avait du temps. T'sais, ça a été vraiment limite avant qu'il perde possession. Fait qu'il n'y a pas fait de geste de football. il n'a pas fait de troisième pas, mais clairement, il aurait eu le temps de faire un geste de football. Fait, il est là, moi, la limite que je suis comme, hey, c'est, je trouve ça vraiment mais aride
l'extension de renverser le corps là-dessus. Même si le catch était fait pendant
le sens. Non, non, non. Ouais, même parce que si il est extensionné, ouais, si déjà extensionné, il aurait dû le coller à son corps, ça aurait été un geste de football, puis ça aurait été completed.
Mais tu sais, moi, mon malaise, puis moi, je l'ai dit, c'est qu'on peut s'obstiner sur le règlement. Moi, je trouve que ce qui est difficile, c'est que d'habitude, dans la NFL, ou en fait, dans n'importe quel sport, pour overturn une décision d'arbitre, il faut que ce soit
clair,
hors de tout
net
doute.
Et précis.
Clair, net et précis. Puis moi, c'est là mon malaise. C'est que d'un côté comme de l'autre, moi, je pense que le vidéo assist ne pouvait pas renverser la décision. Moi, je pense qu'on aurait dû garder la décision du terrain. Peu importe quelle était la décision sur le jeu, ouais, mais je pense que la décision aurait dû être maintenue.
Je vais passer pour un fan des Ravens, mais je vais même reconfirmer ce que j'ai dit, une autre affaire que j'ai dit cette semaine. Même si ça, c'est le deuxième pire call que j'ai vu de ma vie au football. C'est pas c'est à le non-fumble de Hurts du match. Le quoi?
Le non-fumble de Hurts?
En début de saison contre les Giants.
Non, ben ça.
C'est le premier.
Ouais, non, ben non, le premier c'est le no defensive pass interference des Rams contre les Saints en playoff. Mais, mais non, pour moi c'est un des pires calls que j'ai vu de ma vie. Mais par contre, la game elle a été tellement mal gérée par les Ravens. Que pour moi, c'est même pas là qu'ils ont perdu ça. Tu joues contre une équipe, et on a le plus grand fan, on a le seul fan qui existe au monde des Steelers ici, dans notre podcast. Ben, ça fait en sorte que t'es le plus grand aussi, mais le seul qui existe.
On est nombreux, je veux
dire. Lui qui nous avoue que son équipe est horrible contre les Titans, que c'est la pire équipe dans la ligue, qu'ils sont pas capables de jouer contre le zone à l'intérieur du terrain. T'as un gars, tu viens de signer 3 ans, prolongation de contrat, un gros contrat à Mark Andrews.
Zéro target en 3 quarts.
Il donne aucun ballon. Zéro ballon. Ouais. Puis ce que tu fais, tu continues à courir avec un gars qui a une moyenne de course par carry de 2 verges en game. Au lieu de, au pire des cas, donner ça à Keaton Mitchell, qui était méga plus explosif avec une moyenne de genre 5-6 verges par carry. Mais tu lui donnes pas le ballon, tu continues à donner ça à Henry, puis tu donnes aucun target à Andrews. Sérieusement,
je vais aller plus loin.
Henry, il a fait 25
carries. Qui a fait les passes, mettons, en 3... J'en parlais, là. Tu sais, mettons, exemple, 2 jeux, genre, à faible verge, nombre de 3e et 8, 3e et 12, même des fois, des sacs du corps à la mort, où, genre, tu sais, dans le fond, des jeux vraiment super, super bien défendus. Puis là, t'arrives en 3e et 8, puis là, une passe de 27 verges au tight end. Likely, un tight end, 27 verges. Là, t'as le 3e, j'oublie son nom, même pas Mark Andrews. Le 3e avait aussi des reps. Genre numéro 88, il genre passe de 30 verges, passe de 15 verges. À chaque fois que tu arrives en 3e et quelque chose, les Steelers accordent un premier essai au tight end.
Mais pas à Mark Andrews.
Comment
que ton meilleur receveur de passe n'est pas impliqué quand c'est la position que l'autre équipe a le plus de
faveurs? Likely, le job, il y a un moment, après le jeu controversé, il y a un moment où tu as une autre séquence, il est tout seul, le ballon dans les mains, puis il fait juste tomber directement à 90 degrés. Il a le ballon dans les mains, puis genre, il essaie d'attraper la balle, puis juste tomber flush.
Lamar n'a pas joué un mauvais match.
C'est receveur.
De loin, son meilleur match depuis qu'il est revenu de blessure.
C'est fâchant pour lui, parce que les gants, ils ont fumble la win. Ils ont échappé,
ils ont attrapé. Ouais, mais je ne le mets même pas sur le blanc des joueurs. Je trouve que Arba, ce n'est pas la première fois de l'année que je le critique. J'ai toujours été un fan des Ravens. J'ai toujours aimé Arba. J'ai toujours aimé. Je trouve qu'il commence vraiment à l'échapper. La manière qu'il embarque dans le game. Tu sais, il y a des games où que Henry est super explosif. Puis là, ils font lancer le ballon 30 fois à Lamar, qui le lance souvent 22, 23 fois, 35 fois même. Puis là, il y a une game où ce qui est vraiment pas explosif, qui fait juste des une verge, deux verges, puis il continue à donner le ballon sans arrêt. Je ne comprends pas. J'arrive pas à concevoir.
C'est le moment où est-ce que Derrick Henry venait commotionner Derrick Henry a commotionné 2 gars back-à-back, puis il a commencé à courir, puis il a commencé à faire des 6 verges, 8 verges. Puis ça, ils font juste des passes. T'sais, il venait d'avoir 2 courses back-à-back où est-ce qu'il venait de genre gagner des premiers jeux, faire 6 verges, 8 verges, 2 commotions, parce que les gars essaient de le plaquer, puis genre les gars, ils tombent KO, genre. Donc Harrison qui a essayé de le plaquer, puis il est KO. Un autre joueur qui se blesse au genou essayant de le plaquer. Là, je suis comme, OK, tu viens de faire perdre deux joueurs starter défensifs. Pourquoi est-ce que tu l'enlèves? Là, c'est Pierre qui a une interception juste après. Genre, là, ça marche. Fais-le courir, feed-le. Puis là, il arrête de courir avec lui quand ça marche. Puis, littéralement, sur deux jeux plus tard, il lance une interception à Lamar.
C'est comme s'il essayait d'overcoacher.
Je comprends pas.
Arrête
d'overthink. C'est vrai. Ouais, genre... Ils ont été piétinés la semaine d'avant. T'es en train de les piétiner. Ça commence à... OK, tu commences à avoir de l'engagement au niveau du sol. Puis là, tout d'un coup, on va passer. Puis tu lances une interception. Non, non, comme tu as dit, le game plan était vraiment été...
Ouais.
Vraiment.
Des fois, il arrive avec un game plan, puis on dirait qu'il essaie de ne pas déroger du game plan malgré que ça ne fonctionne pas, tu sais. Ou quand tu vois que quelque chose d'autre fonctionne, mais tu t'en vas pas vers cette direction-là, c'est un peu bizarre des fois. Puis il n'y a pas juste des Ravens qui ont fait ça, là. Il y a plein d'autres équipes qui ont...
Ah, ben oui, ben oui. Mais ouais. Moi, où ce que vraiment ça m'a frappé, c'est Mark Andrews, écoute.
Vraiment, ouais, ouais.
Tu viens de donner... Tu sais, les joueurs de la NFL, c'est reconnu. Les joueurs qui signent une prolongation de contrat sont primés. C'est comme implied là, qu'ils vont avoir un gros match aujourd'hui. Puis tu sors de là, puis il n'est même pas targeté. C'est même pas, tu peux pas dire, ah, il y a eu une mauvaise game. Il faisait pas partie du plan de match.
On va te payer 42 millions pour bloquer.
Ouais.
C'est quoi, hein? Sérieusement, ça me fait capoter. Moi, je petit gros assis sur le sofa, là, puis je le vois comment que je ouais. Tu sais, ça n'a pas de bon sens.
Non, ça, c'est sûr.
Bon, hey, on continue le segment.
Yes. Rappel. Donc, dans un duel explosif, match de la semaine, tout feu, tout flamme. Shutter Sanders, 4 TD pass. Cam all around the place aussi.
Ben, Marc-André, show some respect. Shutter Sanders a fait ce que peu de rookies ont fait dans l'histoire de la NFL.
Non, mais je suis du respect pour ce gars-là, pas pour les équipes, mais pour ce gars-là.
Toucher au moins 300 verges à son recrue, peu importe le match durant la saison, peu importe c'est quand que c'est arrivé, il y a genre 8 noms, dont Joe Burrow, dont Matthew Stafford, dont, tu sais, genre, c'est comme
100%.
Dont la marque. Il y a peu de joueurs que, à leur année recrue, ils ont eu des matchs comme ça.
Oui.
Au moins, la meilleure performance dans l'histoire des Browns pour un corps arrière recru.
Ah, mais c'est lui qui enlève pour la chance de jouer contre Tennessee.
Aussi, mais même.
C'est sûr.
Tennessee, ils ont une bonne def quand même. Tu sais, genre, ils ont la
même
plus, mais ils ont une def qui fait la job quand même.
Ils ont beaucoup de sauts, ils ont des bons defs.
Pour lui donner une tape dans le dos. Pour lui donner une belle tape dans le dos, puis la féliciter de la victoire, ils ont annoncé que Watson allait revenir l'année prochaine.
Ouais, l'année prochaine. Mais ils n'ont pas le choix.
Mais le féliciter de la victoire pendant qu'ils perdent, là, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça. Ils ont perdu quand même.
Ils ont perdu, mais...
Rappelle, c'est ton Survivor, ils ont perdu.
Ouais, ouais. Ils ont manqué deux points conversion, je le sens maudit.
Back to back.
Les Jaguars qui éclatent les Colts 36-19 et qui perdent Daniel Jones, les Colts depuis la semaine 1 que Lozé nous dit j'y crois pas, il était 7-1 puis il nous dit encore j'y crois pas. Ben leur saison est officiellement terminée, c'est le grand papa Philip Rivers qui s'en vient comme QB la semaine prochaine avec les Colts. C'est n'importe quoi cette équipe là. Moi je veux quand même faire une parenthèse que je trouve que ça démontre à quel point le bassin de QB dans la NFL est médiocre en ce moment, pour que les Colts se disent hey, « Nous, on va se virer vers un gars de 44 ans qui n'a pas joué depuis genre 2 ans, puis que les 3 dernières années qu'il a joué, il était plutôt moyen. »
Ah, mais là, on peut-tu dire à quel point il s'est brisé, la NFL, puis que c'est dirigé, puis gars, je peux pas partir de débat politique, là, mais comment que ça peut être possible que des gars de même se fassent rappeler, mais que personne n'envoie un téléphone à Kaepernick?
Ça c'est clair.
Je partirais pas de débat politique ici, là.
Ouais.
Mais sérieusement, c'est brisé, là.
T'as 100% raison.
Mais pas juste ça, tu sais, pourquoi t'as un deuxième QB si jamais tu veux même pas y faire confiance quand que ton premier se blesse, tu sais, en voulant dire, je sais pas, fais quelque chose off-season pour avoir un deuxième QB s'il arrive de quoi comme qu'il arrive en ce moment, tu sais. Ça n'a pas de sens. C'est Leonard, je pense. On ne sait même pas c'est qui, tu sais. Puis...
Ouais, mais là, il s'est blessé, c'est pour ça.
Il s'est blessé lui aussi, c'est ça l'affaire.
Il s'est blessé, ok.
Là, par exemple, il y a un point positif à tout ça. Vous savez, là, on est dans la NFL, pas dans la CFL. Fait que c'est 11 gars à l'attaque, 11 gars en défensive. Si jamais toute la défensive se blessait d'une shot, Rivers a 11 enfants, peut tout envoyer ça à un joueur défensif.
Non, il y en a 10, malheureusement. Mais il y a un petit enfant.
Ouais, mais son petit enfant. Ouais, c'est ça. Son...
OK, mais attends une minute. Si c'est 10, d'abord, il peut les amener à l'attaque avec lui.
Avec
ça fait
lui,
11.
C'est ça.
Ouais, ouais. Voilà.
Mais donc, voilà,
nouveau-né, là, fullback.
Les Jaguars qui se positionnent clairement comme... comme une équipe qui va participer aux éliminatoires dans la AFC et les Colts, c'est pas mal terminé, on va se le dire comme ça. les Vikings et J.J. McCarthy qui montrent pourquoi J.J. McCarthy mérite d'être le carrière numéro 1 d'une franchise de la NFL, l'emporte 31-0 contre les pauvres Commanders qui sortaient d'un match où on pouvait bâtir de la confiance, se font piétiner dessus par J.J. McCarthy. Je sais même pas quoi penser de ce match-là. Comme pour vrai, je sais même pas quoi dire.
Il m'a surpris quand même, J.J. McCarthy, mais si, je sais bien que ça allait nulle part, Washington, mais quand même, il a fait... je pensais pas qu'il allait faire 31 points.
Non, mais il y a eu un gros match, mais moi, j'ai des gros problèmes. Écoute, il faut y donner, il a joué un très fort match. Mais moi, j'ai des gros problèmes quand il y a un gars qui a 12 départs atroces consécutifs, sort un gros match, puis là, tu vois comme... Tu lis des affaires comme « Ah, OK, il est correct, finalement. » Tu sais, c'est
ouais, pas non, trompé. Non, c'est
ben, niaisé, tabarnak, là. Le gars, ouais, il était bon game dans l'année, là.
Non, c'est ça, on va... Attendons un peu, là.
Ouais, mais deux, trois de suite, vraiment... on verra. Puis pas contre les Commanders qui se battent pas pour les playoffs. C'est une équipe qui est éliminée. Ils ont bien show up la semaine passée en prime time. Commanders, on va leur donner ça. Ils ont quand même bien show up. Mais, tu sais, c'est pas une équipe non plus baromètre.
Non, ben, c'est correct, il l'a fait. Il faut... Tu sais, quand tu le fais. Mais là, il y a une autre affaire. Je pense que Jefferson, il a genre eu 20 verges, malgré qu'ils ont fait 30
c'est
points.
C'est n'importe quoi, ça. Il va demander un trade. Il va demander un trade.
Ben, il est parti de là. Oh,
deux oui. Réceptions, 11 verges.
Hey, c'est... Ça n'a pas de bon sens.
Ben non.
Ben, je pense que McCarthy, il n'y a pas beaucoup de verges, mais quand
163.
Même.
163. C'est pour ça que j'allais dire, moi, honnêtement, oui, il a joué un bon match, mais contre une équipe qui s'en va nulle part. Puis Aaron Jones et Mason, en tout, ont 25 carries, puis c'est du 5 verges par carry, les deux. Il a vraiment été aidé par sa
mais course. Il a évité la catastrophe comme il fait à chaque game. Là.
Mais tu sais, je l'ai mentionné vite fait la semaine passée, mais tu sais, avant le début de la saison, Justin Jefferson, dans l'histoire de la NFL, c'était le gars avec le plus de verges par match. Il est à genre 98 ou 99 verges par match dans la NFL. Puis pour vrai, c'est rendu que ses props sont à over-under à 48. Là, comme...
Max, ça n'a aucun sens. Le genre 3 semaines. Fait que là, t'enlèves les 3 dernières semaines où c'est encore pire. Ils ont montré à télé une stat avec tous les QB différents qui a joué. Puis là, t'en avais un qui était genre 3-4 games. Il était à 110 verges par game. Puis là, t'avais Cousins à comme 99. Ouais, c'est ça. T'avais Darnold à comme 96. T'avais McCarthy qui a joué genre 8 games avec déjà 9 games. Il était à 50 cucks.
Puis là, c'est sûr que ça a baissé dans les trois derniers games.
Si le gars, le gars, c'est probablement le meilleur receveur de la ligue. Il a eu 100 verges avec tous les QB. Puis là, t'arrives avec un autre QB dans le même système. Dans
puis il y a 20
même...
verges par game.
Puis, tu sais, c'est même pas 50 verges, ça n'a pas de bon sens.
Le gars, Jefferson, il est sur le terrain pour 99% des snaps, puis c'est peut-être le meilleur séparateur avec la défensive. Si tu le vois pas libre une fois dans le game, il y a un problème avec quelque
part. C'est un gros problème. Tu sais, puis la ligne à l'attaque, c'est les mêmes gars, c'est une bonne ligne à l'attaque. C'est le même coach. Il n'a pas changé d'équipe, pas changé de QB, de coach, de coordonnateur. Là. C'est tous les mêmes gars.
Ils ont ce qu'ils ont là, dans un sens qu'avec Michigan, ils ne passaient pas le ballon non plus. Ils se fiaient juste à la course. Voilà. C'est ça.
Voilà.
Ils n'ont pas le passeur.
Marc-André.
Yes, sir. Dolphins qui continuent de run the table. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 5 victoires de suite. À 1-7 ou à 2-7, quelque chose de même. Les Dolphins, ils ont dit on est confiants de run the table. Ils n'ont toujours pas perdu depuis ce temps-là. L'emporte 34-10 contre les Jets. Gros match lundi soir la semaine prochaine. On en reparle plus tard. Mais les Dolphins qui continuent et qui gardent un mince espoir de participer aux éliminatoires. Les Buccaneers, je sais pas quoi penser de ces équipes-là, qui l'échappent complètement contre les Saints. C'est à domicile en plus, c'est complètement inacceptable.
Ce match-là, first m'a coûté ma vie, pas à peu près. Mais ce match-là représente probablement une top 3 des pires défaites que j'ai vues. Depuis que je regarde le foot.
C'est une catastrophe, dans
tous les sens du terme, dans le sens que tu joues contre la deuxième pire équipe de la Ligue ou la pire équipe de la Ligue qui est avec son backup QB, une recrue, que son seul bon joueur est blessé. Leur deuxième meilleur receveur, il fait plus partie de l'équipe, il a été tradé. Une équipe qui est comme absolument
tank, clairement rien, tank, là.
Qui est absolument rien. Tu te bats pour la division, t'es à domicile, tous tes joueurs sont revenus de blessure.
Ouais.
Écoute, c'est honnêtement un top 3 des pires défaites que j'ai vues.
Ils n'ont pas pris au sérieux. Je pense que c'est ça l'affaire.
Ouais, ben ça, je sais, je viens. Si c'est à la maison. Non, mais ça, ça peut pas être une raison.
Une raison, c'est ça.
T'es payé des centaines de millions le payroll.
Mais des fois, c'est ça. Les joueurs, ils disent, on paye des centaines de millions. On a notre MVP en arrière. On est en santé. C'est qui eux autres? Fait que là, ils écoutent. Hey, faites attention à ça. Ouais,
mais tu sais, si c'est vraiment ça, moi, ça démontre que les Buccaneers ne gagneront pas leur division. C'est Caroline qui va passer. Parce que.
Baker a lancé des interceptions super mal placées.
Non, t'as raison. Ils sont mal coachés, mais ils n'ont pas le talent.
Son interception midfield, là, ça n'avait aucun bon sens à Baker. C'était atroce comme passe.
Ouais, ils ont été mal préparés. Ils n'ont pas pris au sérieux. Ça arrive des fois dans la NFL. C'est une équipe que tu te dis, oh, ils ont une ou deux victoires. Ils ne vont rien faire. Ils tankent. Fait que là, tu te dis, oh, ça va être facile. Puis c'est pas facile. Il faut que tu show up. N'importe qui peut battre n'importe qui dans cette ligue-là.
C'est un soir donné. C'est franchement inquiétant pour Tampa Bay.
Ouais, il faut qu'il disparu. Bouka a disparu, Godwin, je sais même pas pourquoi il est revenu au jeu, il est pas game changer pendant tout, l'année passée il était super sa coche. Là ils parlent qu'ils vont ramener peut-être Evan cette semaine sur un snap count. Puis on dirait que tous les joueurs sont là, mais ils font tout à rien.
C'est
vraiment bizarre là. Ça, sérieusement, c'est le genre de défaite où ce que j'ai l'impression que tu peux pas t'en remettre de ça.
Non, c'est ça. Moi, pour vrai, je vois cette. Puis on va reparler dans le Power Ranking tantôt, là, mais moi, je après ce match-là, je peux pas mettre Tampa Bay gagnant de la division pour vrai.
Ouais, mais j'aurais tendance à pencher comme tu dis, mais.
Il y a de l'expérience, c'est sûr, il y a de l'expérience.
Caroline, hey, Bryce Young, là, sérieux.
Non, c'est clair, c'est clair. Je comprends parfaitement. C'est la pire division de la NFL. Les Bengals s'inclinent non pas contre les Bills, mais les Bengals s'inclinent contre Josh Allen. C'est juste ça, comme
Et la neige.
Et la neige. Parce que les Bills, pour vrai, ça l'a pris Superman Josh Allen pour gagner
ce match.
Il a tout fait tout seul. Là.
Les Bengals n'ont pas eu le mémo, hein, parce que tu joues contre le corps arrière qui venait d'inscrire la semaine d'avant le record pour le plus de touchés par un QB dans l'histoire de la ligue. Puis genre, tu laisses faire sa plus longue course pour un TD de sa carrière. Plus de 40 verges. Il n'y avait pas d'espion sur lui. On s'est dit, on ne va pas le couvrir. Puis il s'est mis à courir.
Ah, puis il était seul. Il aurait pu courir 250 mètres sur cette course-là. Il y avait personne.
Ils n'ont pas eu le mémo, il faut croire.
Mais pour vrai, c'est chapeau aux Bills. Ben, chapeau surtout à Josh Allen parce que ça reste que cette équipe-là, il y a plusieurs red flags. Mais ça reste que Josh Allen, quand il décide de se lever le matin et de dire, je prends cette équipe-là sous mes épaules. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans la NFL qui peuvent avoir un impact comme lui dans un match. Puis pour vrai, pour les Bengals, c'est dommage parce que si les Bengals gagnaient ce match-là, je vous annonce que les Bengals avaient des bonnes chances de gagner leur division. Parce que les Ravens et les Steelers, c'est pas convaincant, mais cette défaite-là va rendre la tâche vraiment difficile aux Bengals.
La piste, il avait bien commencé le match.
Oui.
Au début, Marc-André, je pense que tu avais texté. Tu fais comment les Bengals, c'est real, tu sais. Puis,
il venait genre 21 à 7, genre quelque chose dans 20.
Ouais, ça a crumble. Puis comme tu dis, Josh Allen, il fait ce que. Tu sais, Lozé aime bien Lamar, là, mais Lamar, il faisait ça avant avec les Baltimore. Puis là, c'est, on dirait cette année, depuis un an ou deux, là, il a de la misère à genre, prendre son équipe sur son
épaule.
Avant, c'était ça. Ben, l'année passée, il était capable. Mais cette année, il n'est pas là partout. Là.
Que, ouais, c'est sûr que sa blessure n'a pas aidé. Là. Mais Burrow, tout ça, c'est tout vrai, mais Burrow, là, c'est vraiment inquiétant, les deux. Hey, le pick six qu'il a lancé, là, je le sais que c'est un esti jeu défensif, mais honnêtement, tu peux pas lancer cette passe-là dans un match où ce que tu mènes, tu donnes une chance à l'autre équipe, tu donnes un 7 points gratuit. C'est le genre de passe que tu peux pas faire. Tu sais, Burrow, on parle de top 4, là, top 5. Tu peux pas faire
Non, 100%.
Tu peux pas lancer ce ballon-là à ce moment-là.
Non, c'est un des pires balls, il sait jouer.
T'es placé pour remarquer des points encore, pour mettre le match hors de portée ou à peu près. Puis tu donnes un jeu à une défensive qui a de la misère.
Ouais.
Fait que là, ça l'a pas juste fait step-up Josh Allen, ça fait step-up la défensive, parce que là, à ce moment-là, les Bengals ont genre été trois, je pense que les Bills ont scoré trois touchdowns sans que Bengals score des points. Mais avant ça, ils scoraient des points à tous les drives. Fait que t'as comme donné du juice à la défensive pour les drives suivantes. Moi, je pense que ce jeu-là a changé le match au complet. Là. Le pick six qu'il a lancé, c'était atroce. Il s'est défendu en disant que c'était un gros jeu défensif. C'est vrai. Mais come on, t'es supposé. Tu le vois, le gars, là. C'est pas la première fois que les gars ils font des petites screen pass, petites passes lobées. Les bons joueurs défensifs, ils savent que c'est une possibilité, tu sais. Il faut que tu le vois que le gars, il est dans l'angle du ballon. Puis...
Ben oui.
En tout cas, honnêtement, je suis vraiment pas impressionné sur ce jeu. Mm.
75 points dans une game où il y avait un pied de neige, puis que quand tu tombais à terre, tu glissais sur trois verges. Là,
c'est quand même fou.
C'était quand même impressionnant. Ah, il y a juste 300. Green Bay contre San Francisco, ça a fini en série 9 à 6. Là, puis
ouais, c'est exact. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
C'était plate en maudit. Là, fait que, honnêtement, c'était fou quand même comme match. Là.
Dans un match qui sera peut-être analysé par les gens.
FBI.
Du FBI par rapport aux bets. Les Broncos l'emportent 24 à 17. Pour ceux qui ont manqué la petite histoire, le over-under de ce match-là était à 40.5. Et le over, les Broncos étaient favoris par 7.5. Et dans les derniers 25 secondes, il y a eu un pass interference. Il y a eu, avec 0 seconde à faire, puis les Raiders... Ils ont fait un field goal avec 0 seconde à faire pour battre ces deux bêtes-là du même coup. Fait que c'est un petit peu étrange, mais bon, les Broncos qui réussissent encore à gagner un match, encore par une possession. Je sais pas quoi penser des Broncos, mais ils sont quand même aux
élus. Ça fait deux fois que les Raiders engineer une remontée dans une cause perdante pour battre le spread. Et pour battre aussi le over-under. Fait que ça fait deux fois, c'est-à-dire que les Raiders sont pris dans un scénario similaire. Pas genre une fois ça arrive, c'est une coïncidence. Deux fois la même équipe en quelques semaines, ça c'est surtout après tous les scandales de la NBA, de la MLB, c'est à prendre au sérieux.
Yes, Packers-Bears dans un match de division qu'on avait hypé beaucoup, puis je suis quand même d'accord, ça a vraiment été un beau match de football. Deux bonnes équipes pour vrai. Les Packers sortent vainqueurs à domicile contre les Bears. Ils ont quand même eu chaud. Ça a pris quand même une belle séquence de Jordan Love au quatrième quart et un pic dans la zone de but. Une mauvaise passe de Caleb Williams. Il y avait DJ Moore qui était complètement ouvert à la fin. S'il il avait passé à DJ Moore, il y avait le TD pour créer l'égalité.
Ouais, ben c'est ça. Le gars à qui il a passé, il était pas open.
Non. C'est une mauvaise décision de Caleb. Ouais, c'est ça, oui, c'est exactement. Une interception. Bravo, Nixon. Mais pour vrai, DJ Moore, là, si vous regardez la reprise, le DJ Moore au centre du terrain, il est complètement ouvert. Il roule dans la zone début là, s'il passe à DJ Moore. Fait que les Packers s'en sauvent. C'est pas un match parfait de la part des Packers. Les Packers prennent une sérieuse option pour la division. Les Bears, c'est pas une catastrophe non plus. Ils ont quand même montré qu'ils étaient capables de jouer au football. Mais le parcours pour les Bears vient soudainement de se rendre beaucoup plus difficile pour participer aux éliminatoires.
Pourtant, ils sont premiers, c'est ça qui est drôle. En ce moment, ils ont le bail, tu sais. C'est ça qui est drôle.
Qui c'est qui ont le bail?
Ben, le bail, c'était-tu...
La semaine passée, ils étaient premiers dans la NFC, puis ouais, là, ils sont septièmes dans la NFC. C'est quand même fou en une semaine.
C'est quand même très drôle, c'est ça que je voulais dire.
Ouais. Les Rams qui... je sais même pas comment qu'on peut dire ça, comment qu'ils ont planté les Cards 45 à 17. La défaite de la semaine passée des Rams semble juste les avoir fouettés, puis les avoir juste fait comme « Oups, faut qu'on se reprenne en main ». Fait que grosse victoire des Rams, 45 à 17, c'est une grosse équipe dans la NFC. On en parlait tantôt, grosse division. Ça va jouer tight dans cette division-là. Sunday Night Football, je vous l'avais dit, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Houston qui l'emporte 20 à 10 contre les Chiefs. Mahomes n'a pas d'aide. Mahomes est vraiment tout seul dans cette équipe-là. Il n'y a pas de O-line, il y a des drops de ses receveurs. Allez. C'est pour vrai. T'sais, la défensive de Houston est tellement bonne, tu peux pas te permettre d'avoir des drops comme les receveurs des
Ah non, mais... Fait, hey. c'est une des pires games que j'ai vues. Écoute, ça a commencé avec... T'sais, Marco et moi, on parle souvent de Noah Gray ensemble parce que les deux, on le voit comme étant le prochain Kelsey parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'il attrape des passes ici, puis là, des 20 verges.
Ouais.
Tu vois que Casey, ils ont quelque chose dans le futur à bâtir autour de ça. Fait que ça, on en parle souvent de Noah Gray. Mm-hmm.
Okay,
Noah Gray qui fait un gros drop en partant.
Ouais, ouais.
Bon, tu sais, il reçoit deux passes par game. Faut les attraper, ces ballons-là. Puis là, t'as Mahomes qui scramble en deuxième essai. Puis t'as Kareem Hunt qui est un contre un pour faire un bloc. Puis s'il bloque, Mahomes a un easy first down. Kareem Hunt, il fait juste arrêter de bouger comme s'il était pas assez gros pour bloquer le gars. Fait que le gars, il vient frapper Mahomes. C'est pas grave, il tombe en 3 et court. Kareem Hunt, il a la passe pour faire un easy touchdown parce qu'il est complètement seul. Il drop le ballon le jeu d'après.
First down,
là, après ça, t'as Rice qui a deux easy first down complètement dans les mains. Drop les ballons. Kelsey drop le ballon. Il se reprend le jeu d'après. 25 verges, il est tout seul. Drop, pick. Écoute, j'ai jamais vu ça. Casey sont rendus comme il était il y a 2 ans avec l'équipe avec le plus de drops dans la NFL. Mais au-delà de ça, puis j'en ai parlé beaucoup avec Marco déjà, je suis extrêmement déçu. Je sais même pas exactement les mots utilisés pour dire ce que je ressens envers le coaching staff de Casey. Pas que j'enlève la faute sur les... Tu sais, on sait que la O-line, c'est un problème ça, c'est l'année passée. Mêmes, la O-line l'année passée, c'était problématique. Ils l'ont réglé. Ils ont drafté un O-line en first round. Là, les 5 starters sont blessés. Fait que tu sais, tu pourrais dire que la O-line n'est pas bonne, mais n'importe qui, si t'enlèves les 5 starters, la O-line ne sera pas bonne. Je veux dire, il n'y a pas une équipe qui peut se permettre d'avoir 5 backups solides. Fait que tu sais, ça fait partie de la game. Les blessures font partie de la game. Les Niners, ils gagnent avec des blessés. C'est pas une excuse.
Non, ouais.
Mais là,
en même temps, tu sais, l'Osé, c'est un match en 3 temps parce que les Texans avaient 10-0. C'était 10-10 un bout. Là. C'était tendu quand même. Là. C'était à la
portée. Ah non, je sais, mais tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec tout vas-y. Ça. Qui ici, cette année, est la 4e pire équipe dans la ligue contre en 3e et long défensivement. Puis ils sont comme 5 ou 6, 6e équipe qui ont donné le moins de points dans la ligue. Fait qu'à première vue, c'est du la poudre aux yeux. OK, ici, la défensive est extraordinaire. Ils donnent pas beaucoup de points. Mm. Mais pourtant, Nick Wright l'a dit, « They can't get off the field ». Sont toujours sur le terrain, la défensive. Parce que oui, ils arrivent à peut-être pas donner les touchdowns à la fin tout le temps, puis ils sauvent avec des 3 points. Mais en 3e et long de l'adversaire, ils sont abominables. Puis là, on parle de ça d'un gars qui a été louangé dans les dernières années avec la dynastie des Chiefs, ouais, Spagnuolo, que c'est un génie, puis c'est vrai parce qu'il arrive tout le temps avec des blitz différents. Mais comment qu'un gars de même, aussi performant défensivement, tu peux te faire... Tu sais, on ne parle pas de 4-5 games que ça va pas bien. Il n'y a pas d'ajustement qui a été fait de la saison. Puis là, troisième... Tu sais, les Texans, ils n'avançaient pas beaucoup le ballon. Là. C'était serré, comme tu dis. C'était 10-0, c'est tombé 10-10. Mais une équipe qui avance pas le ballon, comment que tu leur permets de convertir 3 fois des 3 et 16?
Ouais, puis il y a Nico Collins aussi qui est comme il est tout seul, il se flippe, puis il y a 4 gars sur lui, pas capable de le plaquer par en arrière, il est capable de tomber par en avant.
Non,
puis il gagne le premier essai là-dessus.
Il y a quelque chose. Ça, c'est la première chose. Mais encore là, quelque chose que j'ai parlé avec Marco, moi c'est Andy Reid. Les gars, c'est connu au foot que les meilleures équipes. Surtout les stratèges, les gars, les meilleurs coachs offensifs, ils vont désigner, ils vont faire des schémas de jeu qu'ils ont déjà dans leur playbook. Tous les gars les connaissent, puis ils sortiront pas de la saison. Ces jeux-là sont... OK, nous autres, on va des contenders au Super Bowl. On a besoin des jeux qui vont sortir au bon moment. Si jamais on en a besoin en playoff, ouais. Un match serré ou sinon. Puis Casey, on le sait, eux autres, on s'entend, là, si t'es à la place de Casey, à tous les débuts de saison, OK, nous, notre game plan, c'est Super Bowl. Sinon, c'est un échec.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est sûr qu'ils ont des jeux qui sont désignés pour les playoffs, match serré, ou même pour le Super Bowl, comme on a vu dans les dernières années. Les petits jeux avec le Mahomes qui avait besoin, il était en 4-1, c'était fini en demi-finale, il y a 2 ans. Puis, t'as le fake run à droite, puis il tosse ça à Kelsey ou des affaires de même. Puis ça, c'est des jeux qui sont propres à eux, qu'ils n'utilisent pas pendant la saison, puis qu'ils gardent au moment opportun. Là, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire à Casey que le moment, il est peut-être opportun là, tu sais.
Que t'es sorti tes jeux, là.
Puis Andy Reid, il est reconnu comme étant quelqu'un qui fait des schémas hors de l'ordinaire. Il trouve des manières que, OK, t'as besoin de 7, 12, 13 verges, 3 verges. Il a le jeu exact, il va battre n'importe quelle défensive. Puis là, il n'y a aucune créativité. Ouais. Il y a eu un 4e-1, ça a été un jeu que, first, tu donnes pas ça à Hunt, que c'est sa seule utilité. La Hunt, il fait rien d'autre que de courir des 2 verges par en avant.
Ouais.
Tu sors ça avec une passe à travers le trafic sur un slant qui est le jeu que la défensive qui joue man-to-man s'attend le plus. C'est des slants et du solide pour une verge. Puis c'est ça ton meilleur jeu en 4 et 1. Moi, j'ai pas de trouble avec l'audace d'y aller, même si Houston n'avait pas eu un first down en deuxième demi. On s'entend, c'est très... Ça peut être critiqué, mais t'es les champions, t'es le gars qui a toujours gagné, tu vas, tu fais confiance à ma... C'est facilement débattable.
Ouais, ouais.
Mais c'était ça ton meilleur jeu?
Ouais.
C'était ça le jeu qu'au Super Bowl, si t'as besoin d'une verge pour gagner, c'est ça que tu vas sortir. C'était le temps de le sortir. T'as besoin ouais. de gagner ce first down-là. Mais c'est impossible que ça, c'était le meilleur jeu dans leur éventail de playbook.
Mis à part, tous ces jeux-là, la game était bizarre. On l'écoutait, mais plutôt en complet l'osé. Puis, c'était 10-0 à mi-temps. Puis, honnêtement, qui ici n'avait rien fait dans l'attaque? La défensive de Houston était la défensive de Houston. Ils sont arrivés en deuxième demi. Ils ont traversé le terrain au complet pour aller faire un touchdown. Après ça, si Chris Jones est arrivé, moi, je pensais qu'elle allait perdre la game.
Chris Jones, tout feu, tout flamme. En Chris
Jones, héros, 1, 2, 3, blitz, CJ Stroud faisait overwhelming. Il n'était pas capable de rien faire.
Après ça, il revient,
traverse le terrain, fait un field goal. Il revient encore avec Chris Jones qui fait des tips, puis tout. 1, 2, 3, punt. C'est du blitz. C'est rendu 10-10. Puis moi, dans ma tête, la game était terminée. C'est Houston ne pouvait pas s'en mettre de ça. Puis là, boum! À ma hausse, il lance un ballon dans les airs, genre, puis c'est un blosé qui me dit bon dégagement. Il a lancé une balle dans le fond. Il a pas le ballon.
C'était comme ça.
Ça a tout changé.
Mais ça, il l'a pris, hein, le blâme, par exemple. Il dit contre une défensive comme Houston, t'as pas souvent la chance d'attaquer les zones profondes. Puis Worthy a battu son couvreur là-dessus. Puis qui dit, il l'a essayé, mais Chris, il a lancé ça divers short.
Ah non, mais
ouais, c'est ça.
Pas bras, mal, été, je pense que c'est Rice qui s'est fait plaquer. En fin de match, il s'est fait plaquer par Petrie. Puis genre, j'ai vu un meme qui disait, il sait enfin c'est quoi se faire DUI. Tu sais, genre, on dirait comme frapper, puis ensuite quelqu'un qui s'enfuit. Tu sais, genre, mais ce gars-là, Petrie, qui a fait justement des jeux défensifs incroyables. Puis aussi, dans le fond, le pick. Tu sais, genre, ce gars-là, il a vraiment show up pour Houston. C'est lui qui a un des mieux paru dans le dernier match. Puis comme tu as dit, Marco, c'est super bon point. Quand j'ai vu le match, moi aussi, j'ai vu au complet ce match-là. Puis je me suis dit, c'est fini. Houston ne se remettra pas de ça. Donc, on a des séquences. Premier jeu, deuxième jeu, ils font rien. D'arrache-pied, troisième jeu sur la ligne. Là, j'étais comme, OK, c'est difficile d'avancer le ballon. C'est une question de temps avant que Mahomes prenne le contrôle. Puis tous les jobs des receveurs, puis tous les jeux mal planifiés, ça a fait que, genre, ils ont comme pas été capables de mettre le match hors de portée. Puis les Texans ont gagné ce match-là.
Au-delà de ça, tu sais, Mahomes qui n'a pas été capable de gagner ce match-là, tu sais, il faut que tu gagnes les matchs si tu veux avoir le legacy que tu veux avoir. Mais en même temps, puis là, je parle même pas en tant qu'un défenseur de Mahomes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse si tous les gars échappent les ballons? Hey, un moment donné, t'es dans la NFL, là. À matin, on faisait une joke, là. Marco, il dit, ouais, j'ai hâte de voir. Je compte un gars avec juste une main. Ben, Chris, ses receveurs, Mahomes, ils ont clairement pas deux mains, là. J'ai jamais vu ça. C'est sérieux, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu veux?
Quand ils sont arrivés en deuxième demi, là, avec ici, puis ils ont commencé à genre tout détruire, puis ça n'avait rien à voir avec l'équipe de genre. J'ai dit, c'est louche, là, ils commencent à tricher, là. Ils ont sorti la marmite d'Obélix, ils ont crissé tous les joueurs un par un dedans avant d'en revenir en deuxième demi. Ça n'avait pas de bon sens, ils étaient en feu total. Puis bon, regarde, après ça, Mahomes, ils ont accordé un. Honnêtement, le jeu du match, ça a été aussi le 4e et 1.
Le
4 et 1 manquait à la ligne de 31 de leur zone. Après
ouais,
ça,
mais c'est là que je reviens avec ça.
Et shotgun en plus.
C'est
pas compris.
C'est quelque chose de donner l'opportunité à l'autre équipe si jamais tu le manques dans ta zone quand l'autre équipe n'a pas eu un first down de la deuxième demi. C'est débattable. C'est correct. T'as le droit. Mais c'était ça ton meilleur jeu?
C'est là,
j'en reviens pas. Ouais. T'es reconnu comme étant possiblement un top 2, top 3 coach de l'histoire, meilleur coach offensif de l'histoire parce que Belichick, c'est un coach défensif.
Ouais.
T'es le meilleur producteur de jeux importants. Puis c'était ça ton meilleur jeu?
Puis honnêtement, moi, j'aurais juste punté le ballon, puis j'aurais fait la défensive.
Là, je vous arrête. Il faut qu'on termine. Il reste un match au segment Rafale, le 50 minutes plus tard. On va y aller rapidement avec les autres segments, mais là, il faut que je vous arrête. Chargers Eagles en Rafale, fait du secours, Marc.
Oh, Chargers Eagles, les Chargers l'emportent 22 à 19 en prolongation. Il y aurait tellement à dire sur ce match-là.
Ouais, comment qu'on peut y aller tranquillement?
Les Chargers qui se donnent une bonne option de participer aux éliminatoires avec cette victoire-là. Les Eagles qui gardent les Cowboys dans la lutte malgré tout avec cette défaite-là, ça va donner une fin de saison excitante dans cette division-là. Nick Sirianni, Jalen Hurts, ça fait plusieurs semaines qu'on s'acharne sur eux, mais je suis pas des fans. Voilà. Débattez, commentez si vous
parlons
voulez.
Parlons pas des Eagles, mais parlons des Chargers. Marco, une victoire, comment tu te sens face à cette victoire-là? Est-ce que ça te donne de l'espoir? Ou t'es juste comme, oh merde, il retarde le fait que tu vas être triste plus tard. Comment tu dis ça?
Ben, c'est un peu comme ce que tu viens de dire. Là. J'ai peur de faire les séries, puis on manque trop de morceaux pour. Honnêtement, cette victoire-là, on la méritait pas nécessairement. Là. C'était une comédie d'erreur, ce game-là. C'était drôle. C'était un match de 22-19, ça paraît plate, vite de même, mais il y a tellement eu de revirements de chaque bord. T'sais. Interception Hurts, après ça, interception Herbert sous la brèche, ça finissait plus de finir. Là. C'était. Puis même Herbert, à la fin de la game, quand il a vu l'interception, on aurait dit qu'il avait genre 45 livres de moins ses épaules, puis c'est pas grâce à lui qu'il avait gagné la game pantoute. Il sait en maudit que c'est la défensive qui a fait la job, puis ça va être tough si on rentre en playoff de gagner la première game. Là, si la défensive, mettons, accorde des points, ça va être très difficile. Fait que, on pourra en parler plus longtemps qu'ici, mais on va essayer de faire ça.
Il y aurait de quoi à dire, mais on fait ça. Surtout, c'est les mêmes problèmes. On pourrait en parler encore. Là. AJ
ouais,
Brown,
c'est les mêmes,
ça puis, quand il y a trop de targets, on dirait qu'il perd. Ça fait plusieurs semaines que je dis ça aussi. On dirait quand il n'était pas sollicité, il se plaignait, mais il gagnait. Là, il feed, puis dans une course perdante, trois semaines de suite. Aussi, beaucoup de mauvaises décisions de Hurts, où est-ce qu'il lance des interceptions, il fait des fumbles. Ils ont mal protégé le ballon. On dirait que les Eagles, ils ont... ils ont une défensive stud qui a vraiment mis beaucoup de pression sur les Chargers en début de match. Ils sont arrivés avec le couteau dans les dents, malgré le fait qu'il manquait Carter aussi, qui est un stud à la ligne défensive. Ça n'a pas paru son absence. Mm-hmm. Les Eagles ont vraiment mis beaucoup de pression. Puis malgré tout, ça se joue sur un festival du revirement. Puis les Chargers n'emportent 22-19. C'est pas encourageant. L'osez, vas-y avec ton petit mot.
Ouais, c'est ça. Je m'éterniserai pas, OK? Je fais juste sortir un quote pour que ce soit le nom du vidéo, là, cette semaine. j'aurais vraiment, vraiment...
pas de phrase punch encore, là.
J'aurais vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match-là, encore plus que sur Casey, mais gars, on n'a pas le temps. Fait que je vais juste dire ça, je serai bref et concis. Hurt Sirianni, le pire duo de la Ligue.
Tu peux
lancer ça comme vidéo.
J'ai déjà ça.
Alain, notre fan, sais-tu, c'est qui notre
Sirianni et Hurts.
Oui, Alain, oui, qui est Alain, nous avait donné
Alain.
De la
merde. Alain, là, on veut ces réseaux sociaux, là, on veut ta réaction de ça.
C'est le pire duo coach QB de toute la ligue.
Allons avec le power ranking, Marc. On va aller ça rapidement. Juste quelques petits changements. En fait, des gros changements, je vous dirais.
On va commencer par la NFC, messieurs.
Ouh.
Donc, on sort le power ranking de Julien dans la NFC.
Donc, dans le fond, mon power rankings dans la NFC, je suis allé comme suit. J'ai mis les Rams numéro 1, suivi des Seahawks, suivi de Green Bay, les Buccaneers, San Fran 5e, les Bears 6e, Eagles 7e, puis après ça, les Lions 8e, Panthers 9e, Cowboys 10e. Le power rankings, c'est sur deux choses. La première, c'est quelle équipe risque le plus de se rendre au Super Bowl. Donc, je vais aller avec le seeding. Comme certaines équipes sont exclues du portrait éliminatoire, j'ai mis plus bas que qu'est-ce que... j'accorde au niveau du talent puis du potentiel. Il y a ça aussi là, qui joue contre certaines équipes. Puis ça se joue à pas grand-chose. Hein. Comme on voit, les Bears étaient premiers. Là, ils sont 7e du classement de la NFC. Ça, c'est mon power rankings. J'aurais aimé faire quelques petits changements. J'ai hésité longtemps, mais je suis quand même fier de ce que j'ai produit. Qui est classé trop haut? Qui est classé trop bas? Je vous ai écouté.
Moi, j'adore Tampa Bay, mais là, ils n'ont plus d'affaires. Là.
Ils ont plus d'affaires 4, là, pour vrai.
Non, moi aussi.
Moi, je me...
Qui tu mettrais à leur place, Lozé? Qui tu montrais
Minimum San Fran, puis probablement Détroit, de la manière qu'ils ont bounce back cette semaine. Gros match. Tout le monde s'attendait à une défaite. Ils sont sortis un match, pas un match parfait, mais un match extraordinaire. Dans une situation de playoff. Tu sais, je parlais tantôt qu'ici, ils n'ont pas sorti la créativité qu'ils ont besoin quand c'était le moment. Ben, Détroit l'ont fait. Ouais, ils ont sorti qu'est-ce qu'ils avaient besoin de sortir au moment. Parce que c'était comme pour eux, c'était comme le Super Bowl. S'ils perdaient là, c'était fini. T'as pas le choix de gagner. Après ça, au pire, si tes jeux, tes scraps et toute l'équipe, t'en créeras d'autres. Tu t'arrangeras avec ton playbook. Mais t'as besoin là de gagner, puis ils l'ont fait. Ouais. Moi, pour moi, Détroit plus haut. San Fran est plus haut. San Fran, pour moi, est troisième, même deuxième avant Seattle pour moi.
Question pour toi, est-ce que ça te rassure juste ce match-là ou tu as envie de voir plusieurs semaines de suite? Parce que c'est quand même contre Cowboys qui, historiquement, accorde beaucoup de points à l'adversaire, même dans les victoires.
Ouais, ben, moi, je suis plus.
Ça te rassure. Oui, non,
moi, je suis un peu plus du penchant de. J'ai besoin. Moi, c'est plus à l'inverse. J'ai besoin de plus une mauvaise performance de Détroit pour me dire que ça me fait peur.
OK.
Pour moi, Détroit, je les ai en haute estime. Puis, je trouve que. Qu'est-ce que le monde avait peur en début de saison? Ils ont réussi à montrer qu'ils n'étaient pas seulement dépendant des deux coordonnateurs qu'il y avait l'année passée et qui ont réussi à pallier à ces départs-là. Fait que pour moi, j'ai besoin de plus qu'une mauvaise contre-performance de Détroit pour dire, OK, finalement, ils baissent dans mon classement.
Ouais, mais moi, qu'est-ce que j'aurais ce que j'aurais à dire, c'est oui, les gars, j'aime leur position. Je suis d'accord avec vous pour Détroit, je suis d'accord avec vous pour Tampa Bay. Mais il ne faut pas oublier quand même que les Eagles ont quand même le pouvoir offensif et surtout la défensive. Détroit, oui, ils ont fait une grosse game. Mais le problème, c'est qu'ils ont encore perdu un joueur à la défensive, Brian Branch. Puis ils ont accordé 30 points contre Dallas. S'ils veulent se rendre loin de Détroit, il va falloir à chaque game qu'ils fassent environ 30 à 35 à 40 points. Parce qu'ils vont toujours accorder 25 points plus ou presque. C'est pour ça que je mettrais peut-être encore les Eagles un peu en avant parce que j'ai peur de la défensive de Détroit. C'est la seule raison.
Ouais, OK. Je trouve que tu as un bon point, mais il y a une affaire des Eagles qui m'a frappé. Tu sais, on parle que cette année, c'est pas beau. Ils gagnent, ils perdent. Non. C'est des mauvais matchs. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez des Eagles. Étant un très gros hater des Eagles, je me fais du fun quand ça va mal pour cette équipe-là, tu sais. V'là deux ans...
Ça paraît pas.
V'là deux ans, les Eagles, pas dur, à moitié de l'année, ils étaient premiers power rankings partout. Partout. Ils s'en allaient pour détruire la Ligue. C'était même pas proche. Casey était même pas proche. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fini l'année avec genre 5-6 défaites collées, se sont fait détruire la première semaine de playoff. T'es comme, ben voyons. Ben, cette année, les Eagles, c'est exactement la même chose qui se passe que v'là deux ans. Exactement le même schéma.
On s'attend, les Eagles, là, ils risquent de fort probablement de gagner leur division. Puis ils vont recevoir qui la première semaine? Ils vont recevoir Détroit, Seattle ou 49ers, genre. Ouais. On saura quelque chose de même. On s'entend que je prends pas mal n'importe laquelle de ces trois équipes-là avant les Eagles.
Ouais.
La game va être quand même très intéressante.
Moi, ce que j'allais dire, Julien, c'est un peu ça. Moi, Tampa Bay, j'y mets trop haut. T'sais, moi, Tampa Bay, là, je regarde. Parce que le but, c'est de se dire qui a le plus de chances de se rendre au Super Bowl. Puis je reviens à qui ils vont affronter. Tampa Bay, San Fran, je prends San Fran all the way. Tampa Bay, Chicago, je prends Chicago all the way. Tampa Bay, Détroit, je prends Détroit all the way.
Pas all the way pour Chicago, mais...
Ben, en tout cas, de ce que je vois depuis 4-5 semaines... Ouais. J'ai pas le choix de mettre Chicago en avant de Tampa Bay actuellement.
Puis, Marc-André, est-ce que tu trouves que j'ai sous-classé tes Packers versus les Rams puis les Seahawks? Ou t'es,
non,
t'es
pour moi, les Rams sont les clear numéro 1 dans la NFC. Ça fait quelques semaines que je le dis. Ouais. Pour moi, Seattle, 49ers, Green Bay, on pourrait les mettre un peu dans n'importe quel ordre, 2, 3, 4. Pour moi, c'est clairement 2, 3, 4. C'est difficile de les départager qui est 2, qui est 3, qui est 4. Mais pour moi, c'est... trois équipes qui fit 2, 3, 4.
Moi, je vais juste dire une affaire. V'là trois semaines, j'aurais été d'accord avec ça. Mettons pour les Seahawks. Puis là, loin de moi, ils gagnent les games par 20 points à chaque semaine. Là. Fait que je suis pas en train de dire.
Ouais.
Mais moi, où est-ce que j'ai un problème avec les Seahawks? Puis pourquoi que pour moi, ils sont pas plus haut quatrième? La défensive est extraordinaire, mais énormément de pression. Il crée des jeux, il crée des touchdowns. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais si tu regardes seulement le jeu de Sam Darnold depuis 5 semaines, ça dépérit de semaine en semaine. C'est de moins en moins convaincant. Puis quand tu vas arriver sur le big stage dans un match important, je ne m'attends pas à ce qu'il performe. Fait que pour moi, je prends tous les autres QB Sauf peut-être Caleb, parce qu'on ne l'a jamais vu.
T'as raison. J'aime ton analyse.
Mais Lozé, ce que j'aime de ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir plusieurs causes à ce que tu nommes. Une des causes, ça peut être peut-être qu'ils sont jeunes, inexpérimentés, fait qu'il y avait un bon plan de match, puis soit les équipes se sont ajustées, donc OK, c'est ça que tu as à m'offrir, voici comment je vais te battre. Puis là, maintenant, c'est un manque peut-être de coordinateurs qui s'ajustent pour dire OK, là, ils ont trouvé une stratégie qui fonctionne contre nous autres. S'ils nous montrent ça ou s'ils nous cachent ce jeu-là en défensive, il faut que tu t'adaptes, il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on propose autre chose. Fait que peut-être que là, tu sais, tu parles de livre de jeu qui. Il faut que je pèque et il faut l'amener ailleurs, ce livre de jeu.
Ben, c'est ça, mais en même temps, ils n'ont pas les game scripts pour permettre de faire ces ajustements-là pendant le match parce qu'ils mènent par 20 à toutes
ouais,
les semaines.
Ouais, toutes les games, ouais,
fait,
c'est ça.
Fait, on dirait que le jeu très moyen, même poor de Darnold dans les dernières semaines,
paraît pas
du tout.
Ouais.
Mais si tu regardes vraiment qu'est-ce qui se passe avec Sam Darnold, il était lights out en début de saison. Puis là, c'est autant d'interceptions que de passes de toucher, mais c'est pas grave, parce qu'au pire, la défensive en fait
deux. Il a même eu un match à 0-4 quand il est parti contre les Rams, genre 23-20.
Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Moi, ça, je trouve ça très inquiétant, parce que tu as besoin des gars qui piquent au bon moment, tu as besoin des gars qui arrivent, puis oui, la défensive, elle fera pas 8 turnovers contre San Fran, elle fera pas 8 turnovers
non,
contre
c'est ça.
Elle fera pas 8 turnovers contre les Rams.
Fait que, t'as raison.
Fait que pour ça, moi, c'est très inquiétant, Sam Darnold.
Oui, puis aussi, c'est ça, c'est que les équipes, mettons exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes, tu sais, on parle de pique au bon moment, ils ont show up. Il y a beaucoup d'équipes qui ont joué un football de qualité, puis on présente un football éliminatoire. Si on parle des Bills, puis Bengals, là, oubliez la fiche des Bengals, là, ils se battaient pour peut-être même rester dans les talks, pour rester proche de la division, à deux matchs d'écart du leader. C'était un match de playoff pour eux parce que c'était un do or die. Ils sont en must win depuis quelques semaines. Puis ils étaient arrivés avec vraiment là, un super bon game plan, puis game script. Ils ont eu le lead. Mais Buffalo a fait comme un step up et un show up. Ces deux-là se sont livrés un match éliminatoire. Il y a beaucoup d'équipes qui ils lèvent la barre, mais les Sox, en ce moment, ils sont juste comme sur leur cruise control. Quand ils vont être challengés, est-ce qu'ils vont show up ou est-ce qu'ils vont s'écrouler? Ça reste à voir.
Le cruise control qu'ils ont eu toute la saison mérite d'être en deuxième position, tant qu'à moi, parce qu'ils n'en échappent pas. Oui, la défensive fait peut-être des touchdowns. Oui, ils font peut-être des revirements, mais reste que c'est des points sur le board quand même. Fait que honnêtement, overall, le team, je pense, mérite d'être deuxième pour le moment. Puis honnêtement, on peut en parler un coup en série. Regarde, l'année passée, on pensait tout que Goff, ça allait directement au Super Bowl, puis il échappe contre Washington. Ouais. Puis, tu prenais Goff bien avant, tu sais, on prenait Goff
Ouais, mais Marco, je suis pas en train de dire que c'est stupide de les mettre deuxième. Moi, j'explique pourquoi pour moi, ils sont pas plus haut quatrième.
Exact.
C'est fair comme analyse. On passe à la AFC maintenant?
Yes!
Pour la AFC, quelques petits changements, des équipes qui ont pogné une grosse débarque, d'autres un gros up, mais pas tant que ça. J'ai mis les Broncos premiers, suivi des Patriots, suivi des Texans, des Bills. Cinquième position, les Jaguars. Sixième position, les Ravens, que j'ai classé plus haut que les Steelers parce qu'ils m'inspirent plus confiance. Les Chargers, septième, surtout à cause des blessures puis de la manière dont ils jouent les matchs. Ils sont importés des éliminatoires, mais c'est un petit peu chancelant ou trop serré au goût de Marco et de ses cheveux gris. Qui grisaille lors des matchs qu'avance. Là, il est caché avec sa casquette. C'est pour ça qu'il y a une casquette à soir. C'est pas comme du soleil, là. Les Steelers, 8e, ensuite celui de Casey et les Colts. Je les ai mis dans cet ordre-là, surtout à cause des fiches, parce que les Steelers sont quand même meneurs de division. Puis Casey vient de perdre. Puis non seulement les Colts ont perdu, mais en plus, ils ont perdu leur corps partant. Puis c'est Philip Rivers qui va remplacer. Je suis pas très trop chaud à cette idée-là. Donc, je les ai mis 10e dans le Power Rankings du top 10 de la AFC. Marc-André, tu étais le dernier à parler. Tu vas être le premier à parler cette fois-ci. Est-ce qu'il y en a un que j'ai surclassé à ton goût ou sous-classé? Quel changement tu ferais?
En fait, tantôt, je vous ai dit que j'avais une surprise. C'est maintenant la surprise.
Je veux le dire avant toi.
Parce que
je sais qu'est-ce que tu vas dire.
Vas-y, je t'écoute.
Pour Marc-André et pour Lozé, le numéro 1 Power Rankings du FC, c'est Houston.
C'est Houston, mais pas juste pour nous deux. C'est ça l'affaire. Parce que ce matin, j'ai fait un petit sondage maison sur TikTok. Puis j'ai demandé à nos auditeurs de répondre au sondage en disant que Julien classait les Broncos numéro 1 dans leur power ranking et que moi, je classais Houston numéro 1. Et le sondage, actuellement, 59% de nos auditeurs classent les Texans numéro 1 et 41% classent les Broncos.
Je savais même pas que c'était ça ton affaire. Parce que j'ai pas TikTok. Fait que j'ai pas pu voir d'avance ce que tu mettais.
C'est pour ça que je l'ai pas mis sur Facebook parce que je voulais pas que vous le voyiez. Ouais, je voulais garder ça. Le. J'ai... En fait, Julien, la raison pourquoi j'ai pas mis d'autres équipes, parce que j'ai pas trouvé la façon de faire un sondage à plus que deux options sur TikTok. Ça vous donne une idée à quel point je suis bon avec les réseaux sociaux. Oh,
parce que les équipes sont à considérer dans ce. Dans
sont à considérer. Puis peut-être même les Bills, tout dépendamment avec leur performance. Là. Mais oui, clairement, moi, je mets Houston 1. Ça fait je sais pas combien de semaines que je vous dis. On était semaine 5 ou 6, je pense, puis j'ai fait un devoir de match sur Houston. Puis je vous ai dit que cette défense, Houston avait joué le meilleur match que j'avais une équipe jouer cette année, que je voyais aucune équipe battre Houston en éliminatoire. Josée, tu nous en parles depuis
Houston
la
était
pre-season.
1-4. Ouais. Houston était 1-4, puis j'ai dit qu'ils vont gagner leur division. Cette équipe-là est tellement bonne, est tellement tout est. Si c'était juste pas de la O-line, cette équipe-là n'aurait pas perdu plus que 2-3 games.
On les avait tous choisis pour gagner la division en début de saison. Ils étaient vraiment chauds là-dessus.
Puis, je
l'ai dégagé, moi, quand il était 1 et 4, par exemple.
Ouais, je veux aussi vous lire un commentaire de Hello The Voice, justement. Bien d'accord avec toi pour Houston. Je trouve que les Broncos ne ressemblent pas à une équipe de 11 et 2. Les Texans jouent du gros football et battent des équipes beaucoup plus fortes que les Broncos. Les Texans, avec la meilleure défensive de la Ligue, Stroud qui semble être en feu après la game contre les Chiefs, peuvent surprendre et se rendre loin en playoff. Je ne vois pas les Broncos gagner plus d'un match en éliminatoire. Fait que ça, c'est un commentaire de Hello The Voice sur le sondage que je trouvais pertinent de nommer. Fait que oui, moi, je mets Houston numéro 1. Moi, les Broncos, je vais me faire... Mon idée finale des Broncos va se faire en fin de semaine dans leur match contre les Packers. J'ai hâte de voir cette équipe-là contre les Packers. Je pense que c'est deux défensives qui se ressemblent. Peut-être un petit edge pour les Broncos côté défensif. Mais moi, je pense que la défensive des Packers est vraiment supérieure à l'attaque des Broncos. Fait que j'ai hâte de voir comment les Broncos vont être capables de jouer ce match-là à domicile contre les Packers.
Lausanne, en fond, parce que tu sais, le top 3, je ne vous cacherai pas, c'est, j'ai mis ça, mais c'est pas pour mettre du hate ou pour...
Non, du tout, là. Truc.
Mais c'est ça, c'est très chaud. Mais en fait, la différence, c'est que les Texans, ou quand il y a une équipe qui est forte défensivement, mais qui ne met pas beaucoup de points, ça me stresse. C'est souvent pas soutenable. Puis c'est genre de...
C'est ça, exactement.
Ils perdent 16-13 en playoff. La défensive ne va même pas donner 20 points, puis ils vont perdre quand même.
Exact.
Ils ont beaucoup trop de drive où les Texans font un three and out où c'est trop difficile de gagner le troisième essai. Puis ils ont été gagnés en troisième essai contre
une défensive qui est le Chiefs en troisième essai.
Denver, c'est la même chose.
Denver a montré plus de matchs. Dans le fond, ils ont marqué plus de points. Ils ont eu Bo Nix avec des contre-performances, mais ils ont aussi des fois gagné avec beaucoup de points, pas juste des points de la défensive. Fait, moi, je suis quand même plus chaud pour les Broncos. Que les Texans, surtout à cause de la constance, puis aussi ils ont la fiche pour le prouver, s'ils se battent.
Ok, ben moi je vais te donner un argument. Moi je vais te donner un argument sur les Texans versus les Broncos.
J'en avais rien aux Texans, mais.
Je voulais juste sortir un chiffre. Tu sais, quand tu dis que les Broncos ont mis beaucoup plus de points, les Broncos, depuis le début de la saison, ils ont marqué 26 points de plus. Là. C'est même pas 2 points de plus par match que Houston, puis ils ont eu leur QB1 toute l'année.
Différence, c'est que les Broncos ont eu beaucoup plus de hauts et de bas, puis ils ont eu des contre-performances. Il y a eu un match historiquement en poche un jeudi aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, là-dedans, il y a 2 contre-performances. Les Texans ont plus de contre-performances, mais la défensive les mettait dans le match quand même.
Je peux te donner un argument maintenant pour Texans versus Denver? Texans, ils ont un QB qui a gagné à ses 2 premières saisons dans la NFL. En séries éliminatoires. Moi, j'ai bien plus peur à une équipe qui est déjà établie, qui a de l'expérience, que le QB a gagné en série, qui a perdu 2 fois contre KC. C'est pas le seul à avoir perdu contre KC, on s'entend.
Tu vis dans le passé, Lausée. J'aime ça. C'est comme avec les Chiefs. Là, avec
mais Denver, ils en ont pas passé.
Les Chiefs de l'an passé, c'est pas les Chiefs de cette année non plus. Là. Fait que, mais j'approuve ton point. L'historique peut donner de la confiance, mais n'est pas garant du futur, malheureusement. Donc, ce point-là, je le respecte.
Je vais prendre l'équipe qui a de l'expérience dans les séries versus celle qui n'en a pas. Okay. Surtout le corps arrière.
Des fois, des jeunes sensations, des jeunes recrues. Vas-y, Marco.
Moi, c'est mon tour, puis c'est parfait ce que Lausée vient de dire, parce que moi, je vais complètement à l'ouest, puis je mettrais Buffalo numéro 1.
Ouais.
Parce que, honnêtement, Julien, ce que tu viens de dire... Houston peut perdre une game 16-13. Même Denver
peut Buffalo peut perdre 38-35. Fait que c'est la même affaire.
Je suis d'accord. mais
Buffalo
a Josh Allen, a l'expérience, comme tu viens de dire. Casey est hors du tableau. Baltimore est hors du tableau. C'est wide open pour eux autres. Puis, en plus de ça, Houston a battu 23-19 il y a 2-3 semaines. Buffalo. Josh Allen s'est fait saquer 8 fois. Il y a eu 2 interceptions. Shakir a 1 fumble lost. Mais malgré tout, il a lancé quand même 250 verges. Cooks a réussi à traverser la défensive pour 110 verges et plus. Il a réussi à faire à Shakir 110 verges par la passe. Il a réussi à produire dans l'attaque contre Houston comparativement à beaucoup, beaucoup d'équipes. Donc, si Buffalo pogne Houston en playoff, je mettrais pas 2 piastres sur CJ Stroud qui vient de se faire marteler par le Blitz, qui n'était pas capable de lancer une passe complète avec le Blitz. Ils ne se feront pas battre 2 fois d'affilée contre Houston, je suis pratiquement sûr. En tout cas, pratiquement sûr, mais je ne mettrais pas 2 piastres là-dessus. Je pense qu'ils pourraient genre ajuster leur jeu. Puis la raison numéro 1 pourquoi je les mettrais 1, c'est Josh Allen. Puis que les Broncos, Houston, puis les Pats ne sont pas encore prêts à être dans cette position-là pour le Super Bowl. Tu comprends? Moi, c'est la seule raison. Je trouve que là, avec Kissy qui est peut-être hors du portrait, puis Baltimore qui n'est plus pas en tout là, je pense que Buffalo, s'ils jouent une game à la fois comme il faut, peuvent se rendre jusqu'au bout. Ça serait mon point.
Je suis 100% d'accord avec ton analyse, dans le sens que avec le match que Josh Allen vient de jouer là, c'est comme très fresh. On se dit que cette équipe-là va tout rafler en éliminatoire.
Ouais, mais c'est un petit bias. C'est ça
que j'allais dire. C'est que si tu regardes la saison...
Lions. Ça marche pour les Lions, les recency bias. Mais
je ne sais pas qu'ils ne peuvent pas échapper une en playoff, là, mais je te dis juste que tu as Josh Allen.
Mais je suis d'accord que si tu regardes... Je suis 100% d'accord avec toi. Puis, c'est pour ça que je mettrais Houston 1, Pats 2, puis Bills 3. Moi, ça serait ça mon classement.
Julien, en passant ton exemple avec Détroit, c'est pas bon parce que j'ai pas mis Détroit à 1.
Ouais, c'est
ça. Ah, ok, my bad. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que c'est vrai qu'il faut oublier que les Pats, quand même, même si ils ont changé d'entraîneur-chef, c'est quand même un entraîneur-chef qui est quand même bien établi, qui a de l'expérience aussi. Fait que l'expérience vient d'ailleurs. Stéphane Diggs a eu des super saisons avec les Bills, se sont rendus loin aussi. Fait qu'ils ont de l'expérience à plusieurs positions en éliminatoire, puis c'est quand même payant ça.
Ah, j'enlève pas les Pats de deuxième, moi non plus.
Non, c'est sûr.
C'est ça, mais c'est vrai que l'expérience ne vient pas de ce line-up-là avec les Pats, mais ils ont tous des joueurs qui ont vraiment été importants dans d'autres équipes, puis ils ont de l'expérience quand même acquise. Il ne faut pas sous-estimer les Pats sur leur calendrier facile.
Ils sont
blessés, ils ont une bonne fiche, ils vont être dangereux. Je trouve,
un bon coach aussi. À surveiller. Un bon coach aussi.
Ouais, ça puis, Drake Mays, c'est aïe. Marc-André, on donne un petit topo, dans le fond, là, de nos prédictions, là, malgré des mauvaises semaines de beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de rouge cette semaine, malheureusement.
Ouais, surtout au début de la semaine. Là.
Aïe. Marc-André, fais-nous un petit topo. Qu'est-ce qui s'est passé?
Yes, fait que en gros, Marco s'en sort premier de la semaine avec 8 victoires et 6 défaites. Il y a quand même plusieurs matchs qu'on avait été unanimes, qu'on a perdu. Le Baltimore, Tampa Bay, Washington, Cleveland. 3 matchs qu'on a été unanimes, qu'on a perdu.
Deux Lone Wolf gagnés ici.
Oui. Lausée, Détroit et Jacksonville. Perdu, 2 Lone Wolf. Ouais. Félicitations.
Daniel Jones, ça fait mal.
Oui, c'est clair. Fait que bravo à toi. Tu as quand même perdu Casey aussi, Lone Wolf.
Oui.
Mais.
T'as manqué ça au début du podcast.
Non, j'ai tout écouté. J'ai tout entendu.
Ah ouais.
Oh, merde.
La 14e défaite de la saison avec Baltimore et Casey, c'est bon.
Ouais, c'est ça.
Mais tu vois, c'est là. J'étais pas là pour te dire à quel point que t'es niaiseux parce que Baltimore a joué contre Casey puis j'avais pris qui. Fait que j'avais pas pris Baltimore.
C'est vrai, c'est vrai.
Il a pris la nulle, les deux, elle n'avait pas perdu.
C'est un peu ça,
j'ai pris la nulle.
Fait que, en gros, c'est ça, Marco 8-7, moi et Lausée 8-6, Marco et moi 7-7, et Julien 5-9 pour cette semaine. C'est Lausée qui est toujours en tête, 112-64. Je suis deuxième, 2 matchs derrière. Marco est 1 match derrière moi et Julien commence tranquillement à s'éloigner de nous.
Julien, il manque-tu une semaine dans tes prédictions?
Ouais, ça marche pas, Julien.
Après moi, il manque une semaine.
Dernière fois que je suis tes conseils. La dernière fois.
Hop.
Ah, on a perdu la communication.
Je suis le seul qui n'entend pas. Je...
Non, j'ai dit, c'est la dernière.
Le pire, c'est qu'on t'a perdu,
Lausée,
c'est pas
vrai. Oh, Lausée, on t'a perdu, ouais, c'est ça.
Yes, sir, c'est lui qu'on flush.
C'est lui qu'on flush.
Je disais, Lausée, j'ai dit, c'est la dernière fois que je suis.
Les gars, je vous ai perdu.
On fait la fin au podcast. On se revoit bientôt pour nos prédictions de la semaine prochaine. Donc, semaine 15, il n'en reste pas gros. Les éliminatoires arrivent aussi. Donc, malgré nos prédictions, qui va avoir le sommet du seeding pour la NFC puis la AFC? Ça reste à voir très bientôt. On se revoit pour en jaser. Qui gagne la semaine 15? Là, dans quelques instants. Résidualité.